Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
Sophie Durocher.
À partir de demain sur Crave, vous allez pouvoir voir un documentaire que j'ai regardé, que j'ai trouvé absolument passionnant, un documentaire sur l'Ozempic. Ça s'intitule « La piqûre de la minceur ». Et dans ce documentaire, on retrouve entre autres un témoignage de Nathalie Simard qui, elle, l'a dit publiquement qu'elle prend du Ozempic. On écoute un petit extrait du documentaire.
Oui. Je me prenais de ma poulet, je gavais les frites, tout le kit. Puis après ça, j'allais me faire vomir. D'autres fois, j'arrêtais au dépanneur. J'achetais des KitKat, des aéros, des caramels. Après ça, je me faisais vomir. Ça a été ça pendant quelques années. Mais ça, je le disais pas, tu sais, j'en parlais pas à personne.
Alors, elle est très courageuse, en effet, de parler publiquement de ça, mais le débat sur l'Ozempic est pas terminé et il sera certainement pas terminé. Au contraire, il va être ravivé avec ce documentaire, donc disponible à partir de demain sur Crave. On va en parler avec Dr Rémi Rabassal-Lorey, qui est endocrinologue, vice-président de l'Institut de recherche clinique de Montréal, président du Conseil professionnel de diabète Québec et qui est longuement interviewé dans le documentaire. Dr Rabassal-Lorey, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, est-ce qu'on doit craindre l'Ozempic? Est-ce qu'on en parle trop? Est-ce qu'on n'en parle pas assez? Ce serait quoi votre verdict général pour commencer sur l'Ozempic?
Je ne crois pas qu'on en parle trop. Je crois que c'est le ton du débat et la nature pour ou contre, sans toutes les nuances qui sont nécessaires en médecine, c'est... Il y a des patients qui bénéficient de cette molécule qui a été bien établie et ainsi de suite. On a un consensus sur le fait que dans le traitement du diabète de type 2, qui est la forme la plus fréquente de diabète, à peu près 9 patients sur 10 ont cette forme de diabète. C'est une molécule qui peut être utile, qui contrôle très bien le taux de sucre, qui est au centre du contrôle du diabète, mais qui peut aussi, dans une grande fraction des patients, réduire le risque de maladie cardiaque. Donc ça, pour ça, je pense qu'il y a un grand consensus là-dessus. On peut discuter un peu du fait qu'il y a eu une montée très rapide quand le médicament est devenu accessible et remboursé par la RAMQ, mais si on prend une pause puis qu'on réfléchit pour ces patients-là, ben une fois qu'un médicament est accessible, les médecins et les patients s'en servent, c'est pas, il y a rien d'extraordinaire. Là où le débat devient très très polarisé, c'est est-ce que si on va en dehors du diabète de type 2, mais dans le cadre de l'obésité, parce que la molécule a aussi un effet sur le poids, est-ce que là, il y a une utilité? Et là, les réseaux sociaux se sont emparés de ça. On a Elon Musk qui en parle, Kim Kardashian, Oprah et des gens plus proches de nous au Québec. Et là, on rentre dans un débat qui est quasiment un débat de société. Puis comme dans les réseaux sociaux, on est pour ou on est contre, soit pour parce qu'il le faut absolument, soit contre parce que, soi-disant, l'obésité est une maladie de gens faibles, ce qui est faux, c'est une maladie génétique qui rencontre un certain mode de vie qui est le nôtre. Il y a des gens qui sont pour en disant que leur vie a changé très bien, d'autres qui sont complètement contre en disant que l'obésité se traite pas avec des médicaments ou il y a des effets secondaires. Donc, c'est là que le débat devient complètement illogique.
D'accord, je comprends. Et j'apprécie énormément le fait que vous mettiez toutes ces nuances-là qui sont importantes. Une des questions qui est soulevée dans ce documentaire-là, qui est réalisé par Émilie Ricard-Harvey, qui elle-même a été confrontée à toutes sortes de questionnements par rapport à son poids. On pose la question dans ce documentaire, est-ce qu'il faut perdre du poids? Et j'aimerais vous entendre là-dessus, Dr Rabassal-Lorey, parce que il y a deux écoles. Il y a des gens qui disent on ne peut pas être obèse et en santé, et il y a d'autres gens qui disent on peut parfaitement être obèse et être en santé. Comment on s'y retrouve là-dedans?
Alors, une fois de plus, c'est une réponse qui va être difficile, mais c'est important de discuter ça. Je vous remercie qu'on puisse en parler et puis que ça fasse éventuellement réfléchir les auditeurs. Voilà. Oui, on peut être en surpoids ou obèse et être en parfaite santé. Puis je vais prendre un exemple. Des gens en surpoids ou obèse qui sont physiquement très actifs ont généralement une meilleure santé, par exemple en termes de risque de diabète ou de maladie cardiaque, que des gens de poids normal qui ne font jamais d'activité physique.
Ah, ça, donc, c'est intéressant. D'accord.
Il est possible d'être en surpoids ou obèse et de ne pas avoir de problème de santé. Ceci dit, On ne veut pas, c'est un grand thème du documentaire dans lequel je suis intervenu, hein, c'est vraiment Madame Émilie Ricard Harvey qui a fait les choix qu'elle a fait, et puis je trouve que le documentaire est intéressant, je suis pas d'accord avec tout, mais c'est tout à fait, à mon avis, c'est un excellent documentaire pour lancer les choses. On ne peut pas non plus, on doit dire donc, pas de grossophobie, et oui, on peut être obèse en santé, on ne peut pas nier en même temps que l'obésité est à la source d'au moins une quarantaine de maladies qu'on pourrait classer en trois grands paquets. Il y a les maladies physiques, comme le diabète et les maladies cardiovasculaires, les maladies du foie, l'apnée du sommeil. Il y a les maladies mécaniques, il y a des gens qui souffrent de leurs genoux, de leurs hanches reliées à leur surpoids important. Et il y a aussi des aspects psychologiques et de santé mentale très importants reliés à l'obésité. Donc on ne veut pas de grossophobie, on peut être obèse et en santé. En même temps, dans certains cas, par exemple, si je suis en surpoids important et que je vis avec le diabète, on ne peut pas nier que perdre du poids va énormément améliorer le contrôle du diabète.
Voilà.
Donc la réponse, c'est oui et non dépendant du patient.
Oui, mais en même temps, c'est passionnant. J'adore discuter avec vous, parce que c'est très pondéré et tout ça, j'adore ça. Le problème que moi j'ai, c'est qu'au cours des derniers mois, des dernières années, si on tient le discours de dire « obésité vient avec un risque accru d'une quarantaine de maladies », le fait de dire ça, on se fait traiter de grossophobe. Et c'est là que moi, je dis, il faut pouvoir faire preuve de nuance. On a le droit de dire que l'obésité est associée avec des maladies sans se faire traiter de grossophobe. Il faut distinguer les deux.
Je suis 100% d'accord. Je crois que c'est un des grands mérites du documentaire de lever le débat, puis il lève un autre débat qui est de dire, après une soixantaine d'années où on a eu une absence de médicaments efficaces pour aider à l'obésité, parce que ce n'est certainement pas un traitement de première ligne, les médicaments de l'obésité. Les traitements de l'obésité reposent sur trois grands piliers.
Allons-y.
La nutrition qualité et quantité, l'activité physique et la santé mentale. Puis des fois, les patients s'engagent dans les trois en même temps. Des fois, par choix, ils vont vers l'un ou vers l'autre.
Oui.
Une fois que ces trois piliers ont été testés raisonnablement, si les gens ont des problèmes de santé importants, mettons quelqu'un qui aurait une apnée du sommeil importante, qui dort pas bien, qui a besoin de la machine, qui la tolère pas bien, et ou quelqu'un qui a du diabète, de discuter d'une intervention en supplément du mode de vie bien fait pour aider à perdre du poids avec une molécule qui a démontré une bonne efficacité et une bonne sécurité. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire avec l'Ozempic. C'est pas du tout ça que je dis. Ça veut pas dire qu'il faut le donner à tout le monde. Mais il est tout à fait concevable que dans certains cas, on puisse prescrire une molécule dans la mesure où on a un mode de vie bien prescrit avant, qui ne suffit pas pour aider le patient. Et là, les évidences sont très fortes que dans certains cas, une molécule peut être utile. Donc, il y a grossophobe, pas grossophobe, parler de l'obésité. Mais une fois qu'on est dans l'obésité, il y a un autre débat qui est absolument pas pacifique actuellement sur les réseaux sociaux. C'est est-ce qu'il y a une place pour les molécules? Et la réponse est oui. Chez certains patients, il y a une place pour les molécules, pour les aider à perdre du poids, pour améliorer un problème de santé, pas pour les aider à perdre quelques kilos ponctuellement. Je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais
en
avant
temps
de
des
partir
fêtes.
Dans le
voilà.
courant ou avant les fêtes, et ainsi de suite. On parle ici d'un problème de santé, qu'il soit physique, mécanique ou mental, qu'on
D'accord.
va aider à travers ça. Et après ça, on doit aussi dire que c'est un molécule qui est extrêmement cher et que donc il y a un enjeu de budget pour la société
Absolument.
Non négligeable.
Voilà, tout à fait. Écoutez, j'ai adoré cette conversation. Je vous remercie d'y avoir participé de façon intelligente et équilibrée et respectueuse. Docteur Rémi Rabassa-Loret, vous êtes endocrinologue et vous êtes vraiment très mis en valeur dans ce documentaire qui est très bien fait, très intéressant, avec une diversité de points de vue. La piqûre de la minceur qui va être diffusée demain à Crave. J'encourage tout le monde à participer à cette réflexion-là. Puis arrêtons de nous traiter les uns les autres de phobes ceci puis de phobes cela. Ayons du fun, plus de fun et moins de phobes. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne
Merci.
Journée.
Au revoir.